Rayon libre.
Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein? Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein? Que le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de savoir-vivre, hein?
Rayon libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge, hein?
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le premier rayon libre de la saison 2024-2025 donnait la parole à Arthur Brossard. Il est gérant d'Electribe avec le choix de faire travailler dans le vélo des personnes en situation de handicap. Cette semaine, on donne la parole à Sylvie Ribraud, directrice de cet ESAD Berthier, et Jean-Jacques Roucou. Lui-même, il a les mains dans le cambouis pour réparer et préparer vos vélos. Mais avant de leur donner la parole, vous êtes sur Cause Commune 93.fm. Il est 14h01 à peu près. Cette émission est enregistrée le lundi 2 septembre 2024. Bienvenue sur Rayon libre. Rayon libre et Cause Commune s'écoute en streaming sur notre site web cause-commune.fm, en podcast sur toute bonne plateforme, via l'appli Cause-commune qui est disponible sur iOS et Android et en DAB+, et évidemment sur votre transistor, votre autoradio sur 93.1 FM. Ne pas nous trouver, faut vraiment faire exprès. Rayon libre existe aussi parce qu'il y a Olivier Gréco et toute la fine équipe de Cause Commune, Abel Guggenheim qui nous proposera encore toutes les semaines une chronique et une réflexion, Wheels.fr qui relaye ses émissions presque toutes, Wheels.west-france. Des auditeurs et des auditrices aussi, restez fidèles, partagez ces émissions, et des invités qui font du vélo ou qui font le vélo, ou même parfois les deux. L'émission est donc enregistrée alors que les Jeux Paralympiques sont en cours, le paracyclisme est un pourvoyeur de médailles, le Parisien titrait le 2 septembre sous la plume de Sébastien Nieto « Comment le paracyclisme français est devenu le meilleur du monde ». Sur ces Jeux, l'équipe de France vise 25 médailles, rien que cela. On y apprend que le succès est un écosystème vertueux. Est-ce vraiment une surprise? Un travail entre les athlètes, la Fédération Française Handisport qui met des moyens financiers, de l'expertise aussi avec des ressources humaines, coach, suivi médical. On ne devient pas une des meilleures nations dans une discipline par hasard. C'est donc une question de moyens, de volonté, de compétences. Le paracyclisme de haut niveau ne commence-t-il pas par le cyclisme de petit niveau? Comme le propose et le pense Boris Cyrulnik dans son ouvrage « J'aime le sport de petit niveau ». Comme il le dit, je le cite, « J'aime le sport de petit niveau parce qu'il socialise, il moralise, il produit une relation humaine et fait naître une épopée ». Il y a bien sûr l'éternel débat, le vélo est-ce du sport? Est-ce que ça doit être considéré comme du sport? Les défenseurs de la bicyclette utilitaire, celle du quotidien, n'aiment pas trop cette association. On y reviendra plus tard. Parce qu'on l'a vu, on le voit avec ces Jeux Olympiques et Paralympiques, le sport en 2024 peut se passer d'un stade. Ou plutôt, il peut faire de la ville un stade. Alors si la ville est un stade, pourquoi refuser cette association vélo et sport? En tout cas, aujourd'hui, point de vélo de haut niveau ou de petit niveau. Juste du vélo à la portée de tous, de toutes, avec des personnes. Sylvie Ribraud, directrice de l'ESAD Berthier, qui a décidé par un beau jour de proposer et d'accompagner le développement de ses pensionnaires avec du vélo. Et puis aussi Jean-Jacques Roucou, qui est l'une des trois personnes qui pose au sein de cet ESAT sur vos vélos, nos vélos, sur un pied d'atelier. Il pose ses mains et il les entretient. Pour les réparer et les préparer, ils n'ont pas forcément d'ambition olympique, mais peut-être voient-ils dans ces Jeux Paralympiques une formidable opportunité de décloisonner, d'explorer, d'amener le vélo un peu ailleurs. Bonjour Sylvie et bonjour Jean-Jacques.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'être venu en studio avec nous. Alors Jean-Jacques, ma première question, elle est pour vous. Quand Arthur est venu me raconter à ce micro son projet Electribe, il m'a parlé de vous, l'un des premiers à avoir levé la main pour être volontaire sur ce travail. Est-ce le vélo ou la mécanique qui vous attire en premier?
Les deux pratiquement.
Les deux, mon capitaine.
Voilà, exactement.
Ouais. Vous êtes, ce que me disait Arthur, vous êtes un passionné de moteur et vous connaissez tout sur les voitures notamment.
Oui, j'ai une bonne connaissance dans le domaine de l'automobile, enfin de la mécanique en général et de l'automobile et de tout ce qui concerne la mobilité, quoi.
Ouais. Et vous avez fait du vélo depuis toujours?
Oui, j'ai fait du vélo et je pratique la randonnée également, quoi.
Vous pratiquez la randonnée à vélo, donc vous partez en vacances à vélo?
Oui, ça m'arrive, oui.
Ouais. Et vous, Sylvie, le vélo, c'est quelle place dans votre vie avant que ça rentre à l'ESAT?
Le vélo, c'est des merveilleux souvenirs d'enfance, surtout. Ouais. Oui, parce que malheureusement, j'ai besoin de me déplacer en voiture régulièrement, mais le vélo, c'est surtout les loisirs, les vacances, le week-end. Mais concernant le professionnel, donc je vais préciser quand même que je dirige un ESAT.
Oui.
Un ESAT, c'est une entreprise ordinaire avec un personnel extraordinaire, puisqu'il s'agit d'accompagner des personnes en situation de handicap, d'une part dans leur formation professionnelle et leur inclusion professionnelle dans le milieu ordinaire, mais également sur tous les pans de leur vie personnelle. Donc, il y a 2 ans, après une période Covid qui nous a beaucoup touchés, puisqu'une des grandes activités de l'ETSA tourne autour de la restauration, donc inutile de vous dire à quel point on a été empêchés de travailler, et donc les 151 personnes en situation de handicap de l'ESAT, dont beaucoup travaillent dans le secteur de la restauration, étaient un peu désœuvrées. Ça nous a amené à une réflexion sur de nouvelles activités à développer de façon à ne pas être bloqué comme ça quand un événement assez extraordinaire, mais potentiellement
dramatique
pouvait intervenir.
Et donc c'est ce que vous dites, enfin, en gros vous faites de la restauration, il n'y a plus de restauration. À l'époque, l'un des grands gagnants pendant le confinement, c'est le vélo, pendant ce confinement. Déjà, vous avez une réflexion à ce moment-là sur, et pourquoi est-ce qu'on n'accompagnerait pas aussi le vélo de notre côté ?
Tout à fait, on s'est dit, alors il y a également une problématique dans notre établissement, c'est former les personnes pour qu'elles trouvent du travail dans le milieu ordinaire. Pour les jeunes, la restauration, c'est un secteur de passion. Vous avez envie de cuisiner ou de servir en salle ou pas. Et quand vous n'en avez pas envie, il faut pouvoir proposer une alternative. Proposer des métiers autour du vélo, la réparation, l'entretien, l'électrification. C'était donner la possibilité à des jeunes de développer des compétences dans un métier qui les intéressait et pour lequel ils avaient des potentiels d'embauche dans le milieu ordinaire en sortant de leur cycle de formation.
Donc, mais pour ça, ça veut dire qu'il faut que vous trouviez quelqu'un pour porter le projet, parce que c'est un projet qui demande de la technicité et qui demande un savoir-faire.
Tout à fait. Et en effet, il se trouve que nous avons discuté avec M. Brossard, qui lui, était tout à fait compétent, voire expert dans le domaine, puisqu'il travaillait depuis 3 ans sur les réparations, entretien et électrification de vélos. Nous lui avons proposé un partenariat pour enseigner auprès de nos travailleurs ce nouveau métier, ce qu'il a accepté, et voilà comment est né l'atelier vélo de l'ESAT Berthier.
Alors qu'est-ce qui est très différent quand on fait rentrer du vélo dans un ESAT par rapport à, par exemple, de la restauration ? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut être extrêmement attentif ?
Ben, en fait, ce qui est différent, c'est le sourcing des candidats. Donc, Jean-Jacques, qui est là, en effet, fait partie des personnes à qui nous avons proposé cette nouvelle piste de formation et de développement de compétences. Il a tout de suite, dit oui. Vous avez vu son goût pour la mécanique
une certaine appétence.
Expérience un peu, puisqu'il avait déjà eu l'occasion de travailler dans ce domaine. Enfin, en tout cas, même si c'était pour ses loisirs, il était familier avec tout ce qui était mécanique. D'autres travailleurs ont répondu à l'appel. Et ensuite, c'est Arthur qui les a accompagnés, évalués, pour voir qui était en capacité de développer les compétences, de quel niveau. On n'a pas les mêmes besoins quand il s'agit de faire de la réparation de vélo ou de l'entretien, ou quand il s'agit d'électrifier. C'est pas le même niveau de compétence.
Et puis, alors là, je me retourne vers vous, Jean-Jacques, c'est pas la même chose non plus que de réparer son vélo quand il est en panne, et réparer le vélo de quelqu'un d'autre avec lequel il y a une prestation et un service vendu.
Ah non, il faut être absolument méthodique, il faut bien connaître le métier, tout ça, donc il faut apprendre, parce que bon, tout savoir s'apprend, donc il faut être patient pour acquérir un bon degré de dextérité, pour être à mesure d'électrifier un vélo. Quoi.
Est-ce que vous avez dû, entre guillemets, désapprendre des choses que vous saviez ou que vous sachiez, mais que vous ne faisiez pas forcément très bien ou dans les règles de l'art, pour pouvoir les faire dans les règles, justement ?
Non, le but, c'est d'acquérir une méthode, quoi, en fait.
Et c'est ça qui vous semble... Ça vous semble compliqué d'acquérir cette méthode ou finalement, vous la pratiquiez...
La pratiquais, mais de manière dilettante, quoi.
Ouais. Et vous, là, justement, comment est-ce que l'ESAT prend la responsabilité de dire, votre vélo, il est électrifié, il est réparé, il est révisé, allez, c'est bon, il est garanti ?
Tout simplement par la compétence d'Arthur, qui est le moniteur d'atelier, qui est en mesure d'évaluer l'état d'un vélo et la capacité, la faisabilité de l'électrifier, par exemple, dès lors qu'il a validé le bon état général du vélo et la capacité à supporter un moteur et une certaine vitesse. Il va mettre en place avec un travailleur donc le protocole d'électrification et savoir évaluer quand le vélo est parfaitement électrifié, en mesure de prendre la route avec son propriétaire.
C'est une formation continue que vous avez, Jean-Jacques ?
Oui.
Et qui est diplômante ou pas ?
Non, elle n'est pas diplômante.
Est-ce que ça veut dire, alors la question qui est suivante, c'est ce que vous disiez par rapport à l'ESAT, Sylvie, c'est que l'idée c'est aussi d'accompagner ces personnes pour qu'elles puissent travailler dans un milieu normal, enfin vous dites ordinaire, c'est ça, je crois, mm-hmm, c'est le mot. Ouais. Est-ce que demain, Jean-Jacques, vous pourriez quitter l'ESAT et aller travailler dans un atelier ordinaire ?
Oui, je pourrais, mais moi j'ai travaillé auparavant dans le milieu ordinaire.
Ouais.
Parce que moi c'est un peu particulier, je suis rentré tardivement à l'ESAT, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que quand je suis rentré à l'ESAT, j'avais une expérience certaine dans le milieu ordinaire, quoi.
Ouais.
Alors que le profil type, ce sont des gens qui travaillent en atelier protégé et qu'on encourage, les moniteurs encouragent à travailler en milieu ordinaire, quoi.
Ouais. Alors que vous, au fait, vous avez aucune envie de partir de l'ESAT ?
Pour l'instant, si, ça peut, il peut y avoir. Parce que moi, je suis en multiservice, donc ouais. C'est particulier, quoi.
Parce que vous faites donc de l'atelier vélo et vous faites quoi aussi, du jardinage ?
Je fais du multiservice.
Ouais.
L'atelier multiservice, donc on fait du jardinage, de la maintenance, on fait
de la maintenance de quoi ?
De la maintenance
de bâtiments ?
Oui, par exemple. Ouais. Oui. Et on fait du jardinage, de la maintenance, on fait du conditionnement, donc...
Le conditionnement, c'est de la préparation de colis, hein, c'est ça, Sylvie ?
Voilà, exactement.
Ouais. Ok. Qu'est-ce que vous préférez faire quand vous êtes à l'ESAT ? C'est quoi votre métier préféré ?
Bah, ça dépend. Moi, par exemple, dans le vélo, j'acquiers des connaissances, quoi. Parce que c'est très, très spécifique, il faut être très méthodique, tout ça, quoi. Chaque fonction a ses exigences précises, quoi.
Ouais. Et vous travaillez en équipe, c'est ce que me disait Arthur. Je crois qu'aujourd'hui, vous êtes trois au sein de l'ESAT à être sur les ateliers vélo, hein, c'est ça ?
Voilà, exactement.
D'accord.
Mais pour l'atelier vélo, il faut être très méthodique, quoi.
Qu'est-ce que... Je reviens à vous, Sylvie. Vous me disiez juste avant qu'il y a eu un trou d'air, entre guillemets, pendant le confinement. Vous avez identifié le vélo. Est-ce que c'est si compliqué que ça de mettre en place du vélo au sein d'un ESAT ?
Alors, ça suppose une analyse un petit peu du marché, de la concurrence, ça suppose des finances, hein, puisqu'il a fallu investir.
Comment vous êtes financé d'ailleurs ?
Alors, on est financé en partie par les pouvoirs publics, qui nous ont bien aidés d'ailleurs sur le montage de l'atelier, l'achat de matériel dont nous avions besoin pour pouvoir réparer les vélos. Ça suppose l'identification des compétences des travailleurs et de leurs souhaits de travailler dans ce domaine. Et si vous permettez, concernant... Le passage de l'ESAT au milieu ordinaire, qui est donc un objectif, mais qui doit se faire avec le travailleur, qui doit avoir envie de se détacher de l'ESAT, qui, comme le disait Jean-Jacques, est un environnement un peu protégé, ça va passer par des évaluations régulières et des stages. Là, on en est, donc l'atelier, il est tout jeune, il a commencé l'année dernière à la rentrée, à peu près les premières approches de clientèle. Et donc, les travailleurs vont acquérir des compétences. On va quand ils vont être prêts à le faire, passer des partenariats par exemple avec des prestataires qui ont des ateliers de vélo ou qui veulent en développer. Les travailleurs vont faire des stages, une journée, une semaine, 15 jours.
Chez les prestataires ?
Tout à fait. Ouais. Les entreprises vont pouvoir voir le niveau de compétence du travailleur, nous faire des retours sur leurs attentes. Est-ce qu'elles sont satisfaites à ce niveau ou est-ce qu'elles aimeraient que le travailleur ait plus d'autonomie, plus de dextérité, plus de rapidité. Bref, on va faire des allers-retours en mode de partenariat avec ces structures jusqu'au moment où l'entreprise va se déclarer OK pour recruter une personne à temps partiel ou à temps plein et le travailleur OK pour aller travailler dans cette entreprise. Et quand ça matchera, les choses se feront comme elles se font dans d'autres domaines d'activité.
Oui, donc c'est à un moment donné, en fait, c'est un processus. C'est un processus
ça
classique.
Ça se fait voilà, sur le temps. Il n'y a aucune urgence. Ça, c'est l'avantage du secteur protégé, c'est que on sait utiliser le temps à l'échelle d'une vie, qu'on passe un an, deux ans, cinq ans pour acquérir une compétence, peu importe, c'est à la hauteur des capacités et du rythme de chacun, et donc il n'y a aucune injonction à être plus rapide que qui que ce soit, chacun va à sa vitesse.
Chacun va à son rythme, et quand il est suffisamment rapide éventuellement pour travailler dans un milieu privé ou ordinaire, et bien dans ce cas-là, il y va, s'il en a envie.
Tout à fait.
D'accord. Ça fait déjà 15 minutes qu'on parle, donc c'est le moment de la pause musicale et de la rubrique agenda. On est en deuxième partie d'émission, on continuera à évoquer le rôle de Lézat Berthier avec Sylvie Ribraud. Lézat qui se présente comme un expert en ingénierie sociale. Lézat Berthier conseille et accompagne les entreprises dans leur démarche RSE sur l'accès inclusion, diversité, handicap. On reviendra sur ce sujet RSE si vous voulez bien Sylvie. Et on continuera à explorer avec Jean-Jacques Groucou, ce qu'on pourrait faire de plus autour du vélo. Avant, vous êtes sur Cause Commune 93.fm, encore une fois, puisque l'émission est enregistrée sans date de diffusion définie. Difficile de vous faire un agenda des événements. Alors un peu de lecture, que voir, que lire autour du vélo cette semaine. Et bien justement, je vous propose ce livre de Boris Cyrulnik et J'aime le sport de petit niveau, paru au Cherche Midi. Ce livre encore, Agir pour les chemins, emprunter, préserver, réhabiliter, animer les chemins, de Bernard Farinelli, auteur aux éditions Terrane. Et puis une tribune du Monde aussi, paru le 10 août 2024 par Ralph Peter Schaeffer, expert en cartographie numérique, vice-président de Trafic et Travel Information chez TomTom. Le titre de la tribune, JO 2024, une opportunité unique pour créer une ville où la priorité n'est plus donnée à la voiture. Tout un programme. N'oubliez pas enfin, chaque premier vendredi du mois, au 22 rue Bernard Dibet, 19h, pour la désormais célèbre et incontournable soirée, portes ouvertes, apéro radio de Cause Commune. Une petite pause musicale, je vous emmène en Italie, Questo Amore e un Motore par Pino D'Angio, et on se retrouve dans 3 minutes pour la deuxième partie de Rayon Libre en compagnie de Sylvie Ribaud et de Jean-Jacques Roucou de Lézat Berthier. On y prépare et on y répare des vélos. Je vous retrouve dans 3 minutes.
Cause commune, la voix des communs.
Certamente basterà. Tutto quello che vuoi, tu guidarlo saprai. Sarai più veloce che mai. Però frena quando dovrai. Più in là, guarda l'olio se c'è. Perché la pressione è già a tre. Però se ripensa un po' a te, lo sai quanta forza che c'è.
Quest'amore.
Somiglianze da follia.
Batti il ritmo coi cilindri e il tempo con il cuore.
L'autostrada è un sentimento ed è un turbo il nostro amore.
Laggiù
c'è un casello, qual è?
Però
quanta nebbia c'è in me.
Avrò
fari gialli perché
dovrò
riportarti da me.
Sarò
più veloce che mai.
E tu
carburante sarai.
Per noi
sai di strada ce n'è.
Sarai
al mio fianco con me. Fermarti.
Quest'amore. Un motore. Corri, corri, corri nella notte, corri mio.
Tante luci in autostrada e il resto lo sa Dio. Stavolta basterà.
Quest'amore. È un motore.
Più forte. Vai.
Quest'amore.
E non fermarti. Non fermarti. Più forte, più forte, e non fermarti.
Quest'amore.
Vai, vai.
Et voilà, vous êtes toujours sur Cause Commune 93.fm, deuxième partie de Rayon Libre avec Sylvie Ribraud et Jean-Jacques Roucou de l'ESAT Berthier. On y prépare, on y répare et on électrifie des vélos là-bas. Jean-Jacques, revenons à vous et votre goût pour le vélo. Arthur, il m'expliquait que vous déplacez à vélo pour aller sur site et réparer et préparer les vélos qui vous sont confiés. C'est quelque chose qui vous plaît, ça, de vous déplacer à vélo ?
Oui, oui, c'est très agréable, quoi.
Vous allez loin ?
Dans l'approche banlieue, en fait. Et alors, vous dites... Paris et la petite couronne, pour faire simple.
Vous dites que c'est très agréable, mais l'atelier n'est pas très vieux. Est-ce que c'est agréable aussi l'hiver, quand il fait froid et qu'il pleut ?
Bon, on fait avec, c'est l'une des joies du vélo, quoi.
C'est l'un des plaisirs du vélo, c'est d'être dehors.
C'est comme la randonnée, sauf qu'avec le vélo, le rayon est plus étendu que quand on pédale, on va plus loin que quand on marche.
Ouais. Oui, on va beaucoup plus loin, mais quand ça monte, on va moins vite.
Voilà.
Combien de temps est-ce que ça vous prend d'électrifier un vélo pour se donner un peu une idée ? Vous avez une idée de ça ?
Un peu plus de 3 heures, à peu près.
Ouais, c'est ça. Environ 3 heures.
Ouais, mais Arthur peut parler. Arthur, il est là avec nous. Oui, c'est environ 3 heures, c'est ça, l'électrification.
Ouais, ça peut prendre plus de
plus
3 heures.
Plus près du micro, Arthur.
Pardon. C'est 3 heures. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. Si c'est un peu plus, on prévient la personne dont on électrifie le vélo.
Voilà. Et comment est-ce que, Jean-Jacques, vous diagnostiquez les vélos qui passent sous vos mains, que vous êtes en mesure de dire celui-ci, il est en bon état, je peux l'électrifier, celui-ci, il faut vraiment pas l'électrifier.
Avec la pratique du métier, au premier coup d'œil, on voit selon le type de vélo ce qu'on peut faire, quoi, pratiquement. Ouais. Si un vélo est apte à être électrifié ou pas, quoi.
Vous, ouais, avec l'expérience,
voilà,
vous voyez.
Voilà, c'est l'expérience qui fait que, quoi.
D'accord. Sylvie, je me retourne vers vous. Comment est-ce que vous assurez le service après-vente de ces vélos qui sont électrifiés ? Il y a un abonnement ? Il y a vos clients ? Comment ils fonctionnent ?
Alors, aujourd'hui, tout simplement, notre prestation est garantie pendant 1 an. Je touche du bois.
Pas de retour.
On n'a pas eu besoin de faire du service après-vente parce que le service est éprouvé, il est fait dans les règles de l'art, fonctionnel, tout roule. Maintenant, bien entendu, toute personne qui aurait... ce qui peut arriver, je pense, plutôt, c'est des incidents qui sont non pas liés au fonctionnement et à l'électrification, mais par exemple une personne dont le vélo va tomber, son écran est cassé,
une crevaison ou une chaîne qui casse.
Il est allé faire du vélo dans l'eau, bref, et on peut identifier et aider la personne à réparer, changer la pièce en fonction des besoins, mais service après-vente, on est là.
Le service après-vente est assuré. Je voudrais juste aussi parler du sujet, c'est ce que je disais en transition, l'ESAT, c'est une réponse à des enjeux de RSE. C'est le double effet qui se coule, l'ESAT et le vélo pour le RSE.
Oui, alors ça c'est sûr que nous avons une offre tournée vers les entreprises qui propose d'électrifier les vélos ou de les réviser, les réparer dans l'entreprise. Ouais. C'est-à-dire nous signons des contrats avec les entreprises qui nous accueillent. On a un atelier mobile puisque Jean-Jacques, Arthur et les autres personnes de l'atelier...
Et Rachid aussi de mémoire.
Oui, voilà, Rachid entre autres, vont venir avec un vélo cargo et tout l'équipement nécessaire, faire une permanence et réviser tous les vélos des collaborateurs qui souhaitent... avoir un diagnostic sur la sécurité, l'état général de leur vélo, réparer si besoin, électrifier s'ils le souhaitent. Et pour l'entreprise, en effet, elle va atteindre plusieurs objectifs en un. D'une part, elle va promouvoir la mobilité douce, elle va sécuriser ses salariés et leurs déplacements, elle va inciter les salariés à avoir une activité physique, ce qui est bon pour le moral et bon pour la santé.
Et la productivité.
Tout à fait. Oui, bien sûr. Ça a des retours tout à fait positifs sur le travail et la collaboration en entreprise. Et puis elle va en partenariat avec l'ESAT promouvoir l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. Donc c'est vraiment un cercle vertueux, un service qu'on peut considérer comme haut de gamme parce qu'avoir la chance d'avoir au rez-de-chaussée de son entreprise une structure qui est là et qui vous aide à entretenir votre vélo, à le réparer si besoin, sans avoir à courir toutes les rues de Paris pour chercher un atelier, c'est quand même cool. On le fait également à domicile, bien entendu, et là, les salariés vont pouvoir y trouver un intérêt financier important, puisqu'ils vont pouvoir bénéficier du crédit d'impôt sous forme d'avance immédiate, donc 50% du coût d'une électrification de vélo, par exemple, ou d'une réparation.
Et pris en charge directement.
C'est plutôt sympa. Ouais. Sinon, les personnes peuvent se déplacer. Pour mémoire, nous sommes à Paris, Porte de Clichy, dans le 17e arrondissement.
Oui. Et alors, j'ai une dernière question, parce que le temps file et on va lancer après la parole d'Abel. Vous me disiez, je crois, en première partie, vous avez 151 travailleurs au sein de l'ESAT, Berthier. Si ces 151 personnes émettent l'envie, elles peuvent toutes candidater pour travailler avec Arthur Brossard sur les vélos ?
Dans l'absolu, oui, mais beaucoup sont chez nous parce qu'elles travaillent en restauration et c'est leur passion. Donc, on a une soixantaine de personnes qui travaillent au conditionnement et vous voyez la différence. Ouais. 70 personnes qui travaillent dans la restauration, en entreprise ou chez nous.
On va avoir aussi une petite question de place dans l'atelier.
Oui, mais
Il
va falloir faire. Il faut agrandir. Il faut appeler Geoffroy Boulard qui vous donne un espace plus grand.
Avec plaisir.
Merci beaucoup. J'aurai une dernière question. Et la dernière question après la chronique d'Abel sera justement où est-ce qu'on peut vous retrouver, comment on peut vous retrouver, et comment est-ce qu'on peut confier aussi nos vélos à Jean-Jacques. En attendant, quand même, on va donner la parole à Abel Guggenheim pour sa chronique hebdomadaire. Abel, je te laisse la parole. On t'écoute.
Bonjour. La photo d'un cycliste parue sur le réseau social X a attiré mon attention. Ce n'est pas un cycliste anonyme, c'est un très grand champion, Federico Bahamontes, vainqueur du Tour de France en 1959 et 6 fois classé meilleur grimpeur de cette course, bien avant que cette performance soit distinguée par le fameux maillot blanc à pois rouges. Rassurez-vous, ma chronique d'aujourd'hui ne sera pas une chronique sportive. Cette photo est émouvante car elle montre ce grand champion quittant le Tour de France après son abandon lors de la 2e étape du Tour de France de l'année, suivant celui qui l'a remporté. C'est du moins ce que explique la légende écrite par l'auteur du site. Federico Bahamontes s'apprête à prendre le train après son abandon du Tour 1960. On mettra le lien sur le site. Rien ne prouve que cette légende soit exacte, mais ça n'a pas d'importance par rapport à ce que je souhaite vous dire. On le voit effectivement de dos, tout seul sur un quai de gare, tenant de la main gauche un vélo et de la main droite une valise. Ce n'est pas du vélo que je souhaite vous parler, mais de la valise. En quittant il y a quelques jours, après avoir procédé à un achat le BHV, je suis passé à côté du rayon des valises, rayon que j'ai parcouru dans tous les sens, et je me suis aperçu que les objets proposés à l'achat des clients et clientes du BHV sont exclusivement des valises à roulettes, et que je ne pouvais donc pas acheter l'objet porté par Bahamontes, une simple valise. J'aurais sans doute dû, si j'avais voulu l'acheter, demander à avoir une valise sans roulette, comme on dit maintenant un vélo classique ou un vélo musculaire pour parler d'un vélo. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler des rasoirs électriques et des moulins à café électriques qui ont supplanté, dans le langage puis dans l'emploi, les rasoirs et les moulins à café comme les VAE remplacent progressivement les vélos. J'en avais déduit que les objets électriques avaient vocation à remplacer les mêmes objets non électriques. La valise à roulettes me montre que c'est sans doute plus général, l'objet technologiquement plus complexe remplaçant l'objet simple. J'ai d'autres exemples en tête. Je serais vivement intéressé si, parmi mes auditrices et auditeurs, se trouvent des personnes ayant réfléchi à ce sujet ou pouvant me donner des références de réflexion ou de recherche, d'en avoir connaissance. Vous trouverez facilement moyen de me joindre, par exemple par le réseau X. Je me suis dit que la prochaine étape serait sans doute celle de l'apparition de valises à roulettes électriques. J'ai un peu cherché sur Internet et j'ai trouvé. Ça existe effectivement déjà.
Merci beaucoup, c'était Abel Guggenheim. Donc une dernière question pour vous, Jean-Jacques et Sylvie. Comment est-ce que on vous retrouve? Comment est-ce qu'on fait appel à vos services, Jean-Jacques?
Bien, nous sommes implantés avenue de la Porte Clichy au numéro 7.
Ouais.
Donc c'est à l'angle de la rue, l'avenue de la Porte Clichy et la rue André Suarez,
ouais,
à proximité du tribunal de Paris.
Ouais.
Donc il y a un magasin, un atelier de travail avec une magnifique devanture d'angle, hein, qui présente les ateliers Berthier avec... c'est les ateliers Utopia, quoi.
Ouais. Et vous êtes ouverte quelle heure à quelle heure, Sylvie?
L'ESAT en lui-même est ouvert de 8h à 16h30, 17h tous les jours. Mais le mieux pour nous trouver, c'est d'aller sur Internet, esat-berthier.fr, tout simplement, d'aller dans la rubrique vélo, éventuellement de prendre rendez-vous avec nous pour un entretien, une électrification, ce que vous voulez.
Et vous pourrez voir un contrat d'entreprise.
Oui. Tout à fait.
Et peut-être que demain, vous ferez des livraisons de votre restauration à vélo cargo. Révisé par Jean-Jacques et Arthur.
Tout à fait.
Eh bien, merci beaucoup. Restez sur 93.fm Cause Commune. Il est donc 14h30. Merci de votre fidélité, chers auditeurs, chères auditrices. N'oubliez pas d'aller pédaler parce qu'une journée sans pédaler est évidemment une journée gâchée. Je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel inédit de Rayon Libre.